Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, le complotisme est-il vraiment si dangereux? Le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. L'accident de voiture au cours duquel Lady Diana a perdu la vie est en fait un assassinat maquillé. Les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à manipuler la population. Ces propositions ont été soumises au mois de décembre à un échantillon représentatif de la population française dans le cadre d'une enquête sur l'adhésion aux théories conspirationnistes. Enquête menée conjointement par la Fondation Jean Jaurès et par l'organisation Conspiracy Watch. 10 propositions au total. Ces 3-là ont recueilli le plus de suffrages. 43% sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec la première, celle sur les vaccins. 34% avec la deuxième, sur les Didi. 27% sur la troisième, les Illuminati. Alors peut-on pour autant en déduire que le complotisme se répand au sein de la société française? Ce qui est certain, c'est que ce phénomène fascine. Dans un monde surinformé, comment expliquer de telles manifestations de crédulité? Il fascine ce phénomène et il inquiète, notamment parce qu'il témoigne d'une défiance systématique à l'égard des institutions de la démocratie. Comme l'écrivait Frédéric Lordon, l'économiste en 2015, le conspirationnisme est un symptôme, celui de la dépossession politique et de la confiscation du débat public. Du coup, faut-il le combattre frontalement? Et d'ailleurs, le complotisme est-il vraiment si dangereux? C'est la question du soir. En compagnie de 3 invités, Valérie Higounet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, spécialiste du négationnisme et de l'extrême droite. Vous avez notamment publié une histoire du Front National, c'était en 2014. Vous êtes la directrice adjointe de Conspiracy Watch. Pour discuter avec vous, 2 invités qui ne sont pas ici à Paris. L'un est à Bruxelles, l'autre est à Lausanne. Celui qui est à Lausanne dans les studios de la RTS, c'est Laurent Cordonnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheur à l'université Paris Diderot. Vos travaux mêlent la sociologie et les sciences cognitives. Et vous venez de publier « La nature du social, l'apport ignoré des sciences cognitives ». C'est au PUF. Notre troisième invité, lui, est dans les studios de Radio France à Bruxelles. Il s'agit de Julien Giry. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Docteur, on vous entend pas très bien. On va réessayer le petit bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, c'est déjà mieux. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur à l'université Rennes 1, spécialiste des théories du complot. Je renvoie à un numéro de la revue Quaderni que vous avez coordonné sur les théories du complot à l'heure du numérique, publié aux Maisons des sciences de l'homme en 2017. Alors je voudrais qu'on commence peut-être cette émission en essayant d'évaluer ce que représente le complotisme et les complotistes. Est-ce qu'il faut d'ailleurs pas commencer par dire, Julien Giry, que les complotistes en fait n'existent pas dans la mesure où, a priori, personne ne va se revendiquer comme tel?
Alors effectivement, on commence directement très fort, je vois. La question est effectivement particulière. Personne ne se revendique conspirationniste. C'était vrai jusqu'à très peu, mais finalement, on raconte qu'aujourd'hui, un certain nombre d'individus, dans une logique d'inversion du stigmate, se revendiquent ouvertement complotistes et fiers de l'être. Alors ça, c'est véritablement la marche. Est-ce que les complotistes n'existent pas? Non, mais encore faut-il que l'on s'entende sur ce que l'on entend par conspirationnisme, théorie du complot et complotisme. Est-ce que le complotisme, c'est simplement émettre des doutes critiques, des doutes illégitimes, infondés, etc. sur un certain nombre de sujets, ou est-ce que ça doit être plutôt présenté, comme moi je le pense, une grille de lecture systématique, systémiste, qui est appliquée à chacun des événements dont l'hypothèse de base est inquestionnable et qu'il existe une organisation secrète, des individus puissants qui manipulent les événements. Donc la question doit être d'abord, je crois, de quoi parle-t-on? Quelle est la définition qu'on donne du conspirationnisme?
Voilà, c'est une question de méthodologie. Voyons justement si cette question, en tout cas, de quelle façon vous voulez poser, Valérie Higounet, pour mener cette étude, nouvelle étude, hein, il y en avait déjà eu une il y a un an, menée par la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch. C'est-à-dire à partir de quelle définition vous êtes parti du complotisme, du conspirationnisme, c'est la même chose, hein, pour mener cette enquête?
Alors, c'est celle qui vient d'être énoncée. En fait, on a proposé différents items à une population, hein, un échantillon d'à peu près un peu plus de 1700 personnes. Et à partir de ces 10 propositions, plus une sur l'attentat de Strasbourg, hein, ils se sont demandé, oui, non, tout à fait d'accord, pas d'accord, etc., etc., avec un item, donc aussi, je ne me prononce pas. Et à partir de cette étude, ce qui nous a semblé très, très important, c'est de mettre en évidence certaines propositions, mais aussi une certaine adhésion. En fait, ce qui est important, important, c'est que déjà, ce qui en ressort, c'est que à peu près 2/3 de la population ne croit pas relativement au conspirationnisme. Ça, c'est intéressant. Mais aussi, un peu plus de 20% croient à 5 théories ou plus du complot. C'est à partir de là qu'il y a un seul...
Voilà, 5 sur les 10 qui étaient proposés.
Exactement. Donc, on peut dire que là, cette population est perméable au conspirationnisme.
Quand on est sociologue et qu'on s'intéresse à la question des sciences cognitives, Laurent Cordonnier, comment est-ce que vous recevez, vous, ces données chiffrées, c'est-à-dire 2/3 de la population interrogée qui rejette les théories du complot, 1/5 qui y adhère de manière assez importante. Est-ce que ça correspond justement peut-être, comment dire, à certaines dispositions, on va dire, à accepter certaines théories?
Alors en effet, c'est intéressant d'avoir des chiffres pour une fois, hein, parce que tout le monde parle de conspirationnisme, ou beaucoup de gens en parlent, mais on ne sait pas toujours dans quelle proportion ça affecte la population française. Là, on a des chiffres. Alors évidemment, ces chiffres ont été obtenus par le biais de sondages. C'est pas forcément toujours la meilleure façon d'obtenir des réponses très claires sur ces questions, mais au moins ce sondage a le mérite d'exister. Pour ce qui est du lien avec les sciences cognitives, je pense que c'est vraiment très intéressant comme objet, le conspirationnisme, parce que c'est un objet qui se situe à l'intersection de processus sociaux et de processus mentaux. Hein, par exemple, les psychologues cognitifs ont mis au jour certains types de dispositions cognitives non pathologiques. Hein, il ne s'agit pas de pathologiser la croyance aux théories du complot. Un certain nombre de dispositions cognitives qui renforcent ou qui facilitent l'adhésion aux thèses conspirationnistes.
Sur le fait de pas pathologiser justement cette adhésion aux théories du complot, est-ce que ça fait partie aussi des préalables qui sont importants pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, Julien Giry?
Ah oui, moi tout à fait, je suis tout à fait favorable à une absence de pathologisation des croyances, parce que, comme ça a été dit, effectivement, on est sur un phénomène qui renvoie à des dispositions cognitives, etc., mais ça renvoie peut-être aussi et surtout à des processus sociaux, à des processus politiques quelque part. Le conspirationnisme, c'est une forme de politisation, une politisation malheureuse, sans doute avec des excès, des errements, etc., qu'on pourrait développer, pointer, mais quand même, c'est une sorte de conscience infrapolitique qui exprime dans les termes absolument dévoyé, absolument grandiloquent, absolument non approprié, des véritables préoccupations sociales d'une partie de la population. Quelqu'un qui s'adhère aux théories du complot, quelqu'un qui va se mettre dans un mode conspirationniste, c'est quand même quelqu'un qui fait quelque part un petit effort d'intérêt, de compréhension d'un monde, alors de compréhension, j'allais dire d'infra-compréhension, de compréhension malheureuse, etc., encore, avec toutes les précautions, mais c'est quand même quelqu'un qui sort d'une espèce de passivité et de léthargie, il faut quand même jamais l'oublier.
Il y a l'idée de donner un sens à ce qui se passe dans le monde, Laurent Cordonnier?
Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on observe. Plusieurs études, pas forcément statistiques cette fois, ont montré que les individus qui se sentent menacés socialement, en fait, ont plus facilement tendance à adhérer aux théories du complot. Par menacés socialement, j'entends des gens qui ont un sentiment de déclassement, que ce sentiment soit légitime ou non, d'ailleurs. Ils ont le sentiment d'être déclassés, ou ils se sentent menacés par le chômage ou ce genre de choses. Et donc, quand on se sent menacé, évidemment, on essaye de trouver un moyen de se rassurer. Et une façon de se rassurer consiste à trouver un récit simple pour expliquer la complexité du monde dans lequel on se trouve. Et ce récit simple peut être un récit conspirationniste dans lequel un agent occulte travaille à la perte de notre société ou à la perte des individus de notre catégorie, en manipulant l'opinion publique, en nous manipulant. Et avec cette vision simple, monocausale, manichéenne du monde, on a l'impression d'une certaine façon de se ressaisir du sens de ce qui nous arrive et de pouvoir potentiellement agir contre ce qui nous arrive.
Donc c'est peut-être aussi une façon de se rassurer. Est-ce que ce qui vient d'être dit, Valérie Gounet, vous avez pu aussi le constater dans votre étude, échantillon représentatif, est-ce que en fonction peut-être alors justement des situations sociales des personnes interrogées, on constate une porosité plus ou moins grande aux théories du complot?
Alors, ce que je voulais dire, je vais répondre à votre question, c'est que c'est vrai que évidemment que le conspirationnisme, c'est avant tout une représentation du monde, c'est un discours politique. Hein, et c'est là-dessus qu'on intervient. Alors, oui, bien sûr, il y a certaines catégories qui sont, on va dire, de populations qui sont plus perméables au complotisme. Il y en a qui ont été évoquées, on va dire, certains milieux, une surreprésentation de certains milieux, un milieu populaire. Il y a aussi, par rapport au niveau de diplôme, on peut dire qu'il y a une perméabilité aussi. Il y a un diplôme moyen, CAP, vous voyez, CAP, des choses comme ça. Mais aussi, et je crois que c'est ça qui est très important, en tout cas ce que l'enquête a révélé, comme l'année dernière, c'est qu'aussi il y a des catégories d'âge. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les plus jeunes seraient plus perméables au complotisme que les plus âgés. Mais c'est aussi par rapport à la façon aussi dont ils s'informent et qu'ils voient le monde, évidemment, quoi.
Il y a des théories du complot que moi j'ai découvertes en lisant votre étude, notamment, alors je me souviens plus de la dénomination anglaise Valérie Gounet, mais enfin en tout cas c'est l'idée selon laquelle les traces des avions, les traces blanches que laissent les avions dans le ciel, sont quoi, c'est des produits chimiques qui sont diffusés pour faire quoi d'ailleurs, pour empoisonner la population.
Sur les chemtrails, oui.
Ah voilà, les chemtrails. Et une réflexion que je me suis faite, c'est de me dire, finalement, est-ce que le meilleur moyen de diffuser une théorie du complot, ça n'est pas d'en parler, d'en faire la publicité ?
Alors, ça dépend les théories, j'allais dire. Vous voyez, la théorie que vous venez de souligner, elle fait 15% d'adhésion. Donc, on va dire que c'est vraiment... Mais on va dire qu'il y a des théories, comme vous le disiez en lançant l'émission, qui sont beaucoup plus populaire, où il y a beaucoup plus d'adhésion. Quand vous parlez, par exemple, de la théorie des vaccins, de la nocivité des vaccins, quand on voit qu'il y aurait pratiquement un Français sur deux qui répondrait favorablement à cette théorie, là, vous voyez, comment est-elle diffusée, quoi. Là, on n'est pas sur... Après, il y en a d'autres qui sont...
C'est une théorie, d'ailleurs, qui porte moins, d'ailleurs, sur la nocivité des vaccins, qu'on peut éventuellement questionner, que sur le fait que ça soit une nocivité délibérée, c'est-à-dire organisée.
Hein. Ouais, un empoisonnement avec une collusion entre les agences pharmaceutiques et le gouvernement, bien sûr. Mais il y a aussi, par exemple, la thèse sur le mythe du complot sioniste mondial. Vous voyez, on est à près d'un Français sur cinq qui croit à cette thèse, qui est quand même le pivot, un des pivots centraux de l'antisémitisme, vous voyez. Donc comment c'est diffusé? Quand vous vous mettez sur Internet, c'est aussi ça la diffusion, hein. C'est avant tout les réseaux sociaux, Internet, etc. Il y a des sites, on va dire, qui sont spécialisés dans le conspirationnisme, tout simplement.
Sur le fait de faire de la publicité, enfin de la publicité, c'est pas forcément en disant qu'il faut y croire, mais en tout cas le fait de parler de quelque chose, ça revient à le rendre public pour ceux qui l'ignoraient. Est-ce que ça ne contribue pas aussi à accentuer ce phénomène, à le mettre encore plus en valeur, Julien Giry?
Oui, effectivement, vous avez raison. Il y a quand même deux choses à noter sur l'étude du pont. J'aurais aimé faire quelques mots de commentaire, si vous le permettez, sur le public des théories du complot dont on parlait tout à l'heure. Alors effectivement, l'étude semble indiquer en tout cas qu'il y a une surreprésentation d'adhésion des catégories populaires. Alors peut-être, première chose à dire, c'est que aucune catégorie sociale n'est imperméable par nature, par culture, etc. aux théories du complot, ça me semble très important de le dire. Et ensuite, il faut faire un distinguo, je pense, entre ceux qui vont produire des théories du complot, qui sont des véritables professionnels du conspirationnisme, qui sont souvent très dotés en capital culturel, capital social, etc., capital économique pour certains d'entre eux, et le simple, j'allais dire, consommateur sur Internet. Donc peut-être être un peu plus nuancé, un peu plus fin. Donc pour revenir à votre question sur la diffusion. Alors il y a une chose intéressante, c'est que des études ont montré, notamment études de psychologie sociale, que diffuser, relayer n'était pas synonyme d'adhésion automatique, premièrement. Deuxième chose, moi je regarde l'étude de cette année en comparaison de l'étude de l'année dernière, et je me rends compte que cette année, les théories du complot testées, donc qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de l'an dernier, à rappeler, sont plus connues par les Français, sont davantage connues par le public, par le panel sondé, mais recueillent en général un taux d'adhésion un peu moindre pour la plupart d'entre elles, celles qui sont comparables, celles qui étaient testées cette année, celles qui étaient testées l'année dernière. Donc, qu'est-ce à dire? Est-ce que la notoriété entraîne une suradhésion? Pas forcément. Et deuxièmement, pourquoi cette notoriété supplémentaire? Et effectivement, là, on peut poser la question, alors d'une part, certes, d'Internet, mais aussi mettre en question les responsabilités des médias, entre guillemets, mainstream ou dominants, puisqu'il ne se passe pas un jour ou une semaine sans qu'une une, un article sur les internet ou sur les versions papier, les hebdomadaires, nous parlent des francs-maçons, des Illuminati, de la Terre plate, etc., etc.
Comment est-ce que vous expliquez d'ailleurs cette fascination médiatique pour le complot?
Oh ben je crois que c'est un bon sujet, c'est extrêmement vendeur parce que quelque part on pose des vraies questions, mais on joue aussi un peu à se faire peur. Et puis c'est toujours un article un peu facile à faire pour les journalistes, en quelques instants, quelques clics, la crédulité des jeunes, etc.
Est-ce que, alors justement sur cette question, Laurent Cordonnier, puis je reviendrai aussi sur la publicité de ces théories comme peut-être moteur des théories du complot, mais pour rester sur cette question que vient d'évoquer Julien Giry, est-ce que ça relève aussi d'un biais qui pourrait être à peu près le même que celui qui croit aux théories du complot, la fascination qu'on peut avoir de l'extérieur pour ces théories-là?
Oui, ce sont des sujets qui sont attirants, cognitivement attirants, qui sont séduisants parce que ils sont provocants. Parfois, ils nous font rire simplement. Hein, quand vous parliez des chemtrails tout à l'heure, c'est un sujet qui fait plutôt rire la plupart des individus. Mais peut-être juste un point sur le profil des gens qui adhèrent aux théories du complot. D'après le sondage de Conspiracy Watch, avec mes collègues Gérald Brunner et Florian Cafiro de l'Université Paris Diderot, nous avons obtenu de la part de Conspiracy Watch les données brutes de cette étude, et nous avons fait un peu notre cuisine statistique sur ces résultats, et nous nous sommes intéressés en particulier aux individus qui se déclarent être des gilets jaunes. Et ce que nous avons remarqué en analysant les chiffres de l'étude, c'est que les personnes qui s'autodéclarent gilets jaunes elles-mêmes, pas sympathisants, hein, mais être gilets jaunes, adhèrent aux 11 théories du complot testées, y adhèrent de 2 à 6 fois plus en moyenne. Et de façon encore plus intéressante, nous avons poussé un peu plus loin nos analyses statistiques avec mes collègues, et nous avons pu observer que le profil sociologique des gilets jaunes n'est pas suffisant pour expliquer cette adhésion plus élevée aux théories du complot. Hein, en effet, les personnes qui se déclarent gilets jaunes ont tendance à adhérer aux théories du complot d'une façon plus marquée que le reste de la population, et ce, indépendamment de la catégorie professionnelle, du niveau d'études, de l'âge, du positionnement politique ou de la religion des sondés.
Mais alors, du coup, quelle est l'hypothèse qu'on peut émettre pour essayer d'expliquer le fait que les gilets jaunes adhèrent davantage sans que ce soit lié à leur profil sociologique ?
Oui, alors c'est justement maintenant tout le travail qu'il faut expliquer. Ce que ce résultat veut dire, c'est probablement que le mouvement des gilets jaunes a attiré et réuni sous une même bannière une part importante de conspirationnistes de différents horizons socio-économiques. C'est possible que ce soit des gens qui soient avant tout dans une démarche de méfiance à l'égard du gouvernement, à l'égard des politiques, des médias, des experts, en gros à l'égard des élites. Et ils auraient trouvé dans le mouvement des Gilets jaunes le moyen d'une expression politique de ce manque de confiance ou carrément de cette défiance à l'égard des élites.
Alors ça, c'est justement ce que vous relevez, c'est-à-dire cette défiance à l'égard des institutions de la démocratie dans l'étude que vous avez menée, Valérie Gounet.
Et dans la note de Jérôme Fourquet, qui est propre aux Gilets jaunes, je peux que ratifier ce qu'il vient de dire. Je veux insister sur plusieurs choses par rapport aux propos que j'ai entendus. C'est une évidence totale qu'il y a une différence entre l'émetteur, le professionnel du complotisme, et ceux qui reçoivent ces théories. On est bien d'accord. Quand vous voyez un homme comme Dieudonné Mbala entre ses spectacles, c'est venu on parle là des Gilets jaunes lors de ces manifestations. Vous voyez bien ces gestes qu'il fait, qui sont un signe de ralliement, par exemple, à cette complotosphère. C'est évident que il y a ces professionnels. Mais il y a aussi ceux qui reçoivent, ça c'est logique. Après, en ce qui concerne ces personnes qui se disent, qui se reconnaissent qui sont gilets jaunes, hein, cette identification, c'est vrai, c'est ce qu'on a évidemment établi aussi, c'est que pour certains items, il y a vraiment, si vous voulez, c'est multiplié par 2, 3, 4 ce qui vient d'être dit, c'est vrai. Donc la défiance, elle est où ? Elle est évidemment dans le gouvernement, hein, dans le système aussi démocratique, hein. On voit aussi que plus on est complotiste, plus on a une défiance assumée vis-à-vis de la démocratie, donc on en est là aussi, mais aussi par rapport aux médias.
Mais est-ce qu'on peut pas voir aussi justement dans la diffusion de ces théories conspirationnistes un symptôme de la crise démocratique?
Complètement.
Valérie Gounet.
Mais évidemment, on est dans un contexte particulier. On est dans une défiance aussi totale par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au sein du gouvernement. Vous savez, beaucoup sont désillusionnés, ne croient plus du tout en la politique aussi, hein. Donc pourquoi pas croire en autre chose, dans d'autres partis, hein, entre autres qui n'ont jamais été essayés. Je pense évidemment au Rassemblement National, mais aussi, par exemple, au complotisme, bien sûr. Et il y a aussi, l'étude montre aussi que la corrélation est forte entre l'électorat du Rassemblement National et aux conspirations.
Et là, je vais reciter la phrase que j'évoquais en début d'émission de Frédéric Lordon. C'est issu d'un de ses articles pour Le Monde Diplomatique en 2015. C'était un numéro qui était consacré justement aux théories du complot. Le conspirationnisme, c'est même une phrase un peu plus complète que ce que j'ai dit au début. Le conspirationnisme n'est pas la psychopathologie de quelques égarés. Il est le symptôme nécessaire de la dépossession politique et de la confiscation du débat public. On peut y voir l'effet d'une population qui ne désarme pas de comprendre ce qui lui arrive, mais s'en voit systématiquement refuser les moyens. Qu'en pensez-vous, Julien Giry ?
Je crois que la phrase est quand même quelque part relativement excessive. C'est déjà le terme nécessaire est extrêmement question. Un symptôme nécessaire, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que le conspirationnisme est soit la cause, soit et en même temps peut-être aussi la conséquence d'un certain désamour du politique, d'une certaine crise institutionnelle, politique globale, d'un dérèglement. Et qui appelle à un certain ordre. C'est pour ça que, si vous permettez de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur est-ce que les jeunes croient davantage aux théories du complot ? Il semblerait, plusieurs études européennes le montrent, mais alors, est-ce que c'est véritablement un phénomène propre à la jeunesse d'aujourd'hui ? C'est-à-dire que ça serait plutôt un effet de génération, une sorte de génération désabusée face au régime représentatif ? Ou bien, est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose qui est un effet d'âge ? C'est-à-dire que ça serait finalement quelque chose de propre à la jeunesse, et quand jeunesse se passe, ce complotisme passe. Je crois que là, c'est véritablement quelque chose sur lequel nos investigations se doivent porter. À mon sens, moi, j'émets l'hypothèse, pour un tas de raisons, qu'on est plus dans un effet de génération. C'est-à-dire qu'on est à un moment où les configurations sociales, politiques, économiques, environnementales, écologique au sens le plus large du terme, permettent finalement un retour en force, en France au moins, parce que dans d'autres pays c'est un peu différent, un retour en force de la légitimité ou du moins de la visibilité, de la publicité, de la parole conspirationniste qui apparaît finalement comme une sorte de substrat un peu facile, un petit peu une explication simpliste, ça a été tout à l'heure, pour comprendre véritablement le monde.
France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Le complotisme est-il vraiment si dangereux ? C'est la question que nous posons ce soir au sociologue Laurent Cordonnier, qui se trouve à Lausanne en Suisse, au docteur en sciences politiques Julien Giry, qui se trouve lui à Bruxelles, et à l'historienne Valérie Higounet, qui elle est avec nous en studio à Paris. On commente notamment cette étude, deuxième étude de la fondation Jean Jaurès Conspiracy Watch, justement sur la diffusion des théories conspirationnistes. Et venons-en justement à la question du soir. On a essayé un petit peu d'évaluer ce que cela représentait, pourquoi on y adhérait. Maintenant, c'est les effets que cela produit. Est-ce que ce sont des effets délétères ? Est-ce que c'est dangereux ? Valérie Higounet, par exemple. Alors, restons sur une de ces théories qui est à laquelle l'échantillon que vous avez interrogé adhère le plus, à savoir le fait que Lady Di aurait été assassinée. Bon, je crois à cette théorie. Faisons l'hypothèse que j'y crois en tout cas.
Alors, est-ce que c'est dangereux ?
Quel est le problème ?
Est-ce que c'est dangereux ? Non, c'est pas dangereux, mais après, on épouse un système de pensée. C'est ça qui est beaucoup plus dangereux, j'allais dire. Parce que si on l'épouse pour les Didi, si on doute et on nie cette thèse officielle, comme on dit, ça veut dire qu'on peut aussi épouser d'autres thèses complotistes. Il y a des personnes qui croient en une thèse, en deux, en trois. Le problème, c'est quand on a un système de pensée qui fait qu'on se focalise là-dessus et qu'on croit dans un grand complot. Alors là, on peut peut-être parler du terme dangereux. Je pense, par exemple, quand on évoquait la thèse sur les vaccins. Est-ce que c'est dangereux là ? Est-ce que ce qui est soulevé, en fait, ça relève de l'intime, du personnel ? C'est la seule théorie complotiste qui relève de ce domaine. Est-ce que se dire qu'il y a un empoisonnement, ce qu'on disait tout à l'heure, et le fait qu'on décide donc de ne plus vacciner, est-ce que c'est dangereux ?
Donc, on pourrait se dire, c'est peut-être un danger que je prends, mais un risque que je prends pour moi-même.
Bien sûr.
Sauf à considérer, bien sûr, qu'on prend aussi un risque pour les autres, parce qu'en n'étant pas vacciné, on peut aussi contaminer d'autres personnes autour de soi.
Pour ses enfants aussi, etc. Après, par exemple, on parlait tout à l'heure aussi de la théorie du complotionniste mondial. Est-ce que c'est dangereux ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on parle en général, il y avait une étude de l'IFOP en 2014 qui avait montré que cette même question était posée, c'était 16% d'adhésion. Aujourd'hui, c'est 22%. Dans l'ensemble de population, est-ce que ça augmente ou pas ? En tout cas, celle-ci, il semblerait qu'elle augmente. Mais surtout, dans ce contexte d'aujourd'hui, alors avec encore cette annonce avant-hier d'une recrudescence de l'antisémitisme, est-ce que c'est dangereux de croire dans cette thèse qui est un des pivots de l'antisémitisme ? C'est à vous de répondre, mais je pense qu'on a vu ce qui s'était passé. Il y a eu le prix Ilan Halimi qui a été remis aussi dernièrement. Est-ce que c'est dangereux ?
Laurent Cordonnier, est-ce que si je commence à croire à une théorie du complot, il y a toutes les raisons de penser que je vais être disposé à croire à plusieurs théories du complot ?
Oui, alors ça c'est aussi une question importante. Je vais y venir tout de suite, mais peut-être un mot sur le danger
si vous voulez bien, dont vous parliez. Ou d'abord là-dessus, et ensuite je vous et plutôt revenez sur le danger.
Ok, très bien.
D'accord.
Alors, en effet, la question de la cohésion des théories du complot entre elles, c'est une question assez délicate. Les sondages et les études de psychologie ont tendance à montrer, en général, que quand on adhère à une ou deux théories du complot, on a tendance à adhérer à un grand nombre de théories du complot. J'ai l'impression, pour ma part, et c'est pas seulement une impression, on a une étude en cours à l'Université Paris Diderot sur la question, nos données actuelles montrent, en effet, que ce serait plutôt un artefact dû aux méthodes d'analyse, cette impression d'homogénéité des théories du complot. Ce qui se passe, c'est que nous sommes penchés sur non plus ce que déclarent les gens quand on leur demande « croyez-vous à telle ou telle théorie du complot ?» mais ce que recherchent les gens sur Internet au sujet des théories du complot. Et ce que l'on constate, c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes qui font des recherches sur Internet au sujet de différentes théories du complot pour la plupart d'entre elles. Et on voit apparaître en fait des types, une typologie de théories du complot, dont des théories du complot qui sont strictement politiques, hein, comme des théories sur les Illuminati qui essaieraient de dominer le monde, ou sur le complot sioniste, etc., etc. Et ces théories du complot ne vont pas forcément de pair, c'est pas forcément les mêmes personnes qui s'intéressent à ces théories du complot que des théories comme les chemtrails que vous évoquiez tout à l'heure, ou la défiance vaccinale par exemple.
Donc il n'y a pas une congrégation des complotistes qui ourdirait une espèce de complot qui rendrait finalement ces théories particulièrement dangereuses. Et là, je vous amène justement sur la question du danger.
Merci pour cette transition. Oui, en fait, pour la question du danger que représente le complotisme, il y a une chose que l'on sait, en tout cas, c'est que le complotisme va de pair avec la radicalisation politique, voire la radicalisation religieuse. Gérald Bronner, dans un de ses livres, La démocratie des crédules, a entre autres montré ça. Hein, les radicalisés islamistes avec lesquels il a eu l'occasion de s'entretenir étaient tous complotistes. Ça peut servir de marche-pied en fait à la radicalisation. Évidemment, tous les complotistes ne sont pas des terroristes ou de dangereux individus, bien évidemment. Mais par contre, on voit bien qu'il y a un lien. Pourquoi ? Parce que si vous croyez réellement que vous êtes manipulé par des groupuscules secrets qui tirent les ficelles, qui vous nuisent, qui veulent du mal à vos semblables, vous allez vous sentir légitime à prendre les armes contre ces gens-là. Si réellement vous adhérez à cette croyance, vous allez pouvoir vous battre et légitimer toute forme d'action politique, voire d'action violente. Donc le complotisme peut ouvrir la voie à une certaine forme de radicalisation politique.
Julien Géry ?
Oui, effectivement, c'est vrai que le complotisme peut apporter, et c'est un instrument, et finalement quelque part aussi un passage vers la radicalisation. Encore faut-il distinguer deux formes de radicalisation, je crois, alors qu'elles soient religieuses ou politiques, ici peu importe. C'est ce qui relève simplement de la radicalisation idéale. Je peux passer des heures devant mon ordinateur à consommer des vidéos, des films, etc., complotistes, djihadistes, salafo-djihadistes, etc., me monter la tête tout seul, devenir extrêmement radical en parole, mais ne jamais, jamais passer à l'acte. Parce qu'il faut jamais oublier que dans ces dimensions de radicalisation, alors que ce soit dans la constitution d'un groupe complotiste, remarquez qu'il y en a très peu de groupes complotistes organisés, politiquement organisés, j'entends, ou religieux, salafistes, djihadistes, etc. C'est la sociabilité, la dimension de réseau de sociabilité. C'est tout à fait consubstantiel aux démarches de radicalisation. Si vous n'avez pas l'interaction sociale entre les individus, Internet ne suffit pas, c'est-à-dire la constitution de groupes formels ou informels, etc., d'individus qui vont s'enfermer, qui vont quelque part entretenir la radicalisation et se pousser les uns les autres à passer à l'action. Ça, c'est très très important. Donc le danger, est-ce qu'il est simplement d'un point de vue idéal ? Je ne pense pas. Le danger, c'est effectivement quand vous commencez à vous organiser. Dire que, par exemple, pour reprendre la question du complot juif qui était évoqué, il y a trop de juifs à la télévision, vous pouvez le dire dans votre salon, vous pouvez râler devant votre télé, ça ne change pas grand-chose. C'est quand vous commencez à vous organiser, que vous commencez à mettre en place des mesures pour dire, attention, va falloir qu'on fasse en sorte que, etc. Donc il y a plusieurs stades, il y a plusieurs gradations. Je pense qu'il faut être assez prudent et ne pas non plus nous faire peur nous-mêmes en disant, voilà, voyez, il y a un stock relativement faible, finalement, de complotistes vraiment pur et dur en France. Si on prend chacune des théories testées, les tout à fait d'accord, on est quoi, à 7-8% chaque fois maximum. Alors on peut dire que c'est trop, et c'est toujours trop. Mais il n'est pas non plus, il faut pas non plus se faire peur, jouer à se faire peur. Il faut s'en inquiéter, il faut étudier ce phénomène de façon sérieuse, scientifique, calme, posée, mais sans excès non plus d'un côté de minimisation, ni sans effet de l'autre côté de dramatisation et d'exagération. Je crois que ça, c'est très important.
Valérie Gounet.
Oui, alors c'est vrai que dans les tout à fait d'accord, il y a très peu de théories, il y en a une seulement qui est au-dessus des 10%, ce sont les vaccins. Après, il y a évidemment, ça dépend la définition qu'on donne du danger. Est-ce que quelqu'un qui vient avec une arme, vous voyez, il y a ça, mais il y a aussi un danger par rapport aux idéologies, ce qui est soulevé aussi. Ça veut dire que, par exemple, quand on parle de la théorie du grand remplacement, par exemple, c'est cette théorie qui dit que l'immigration est un projet organisé délibérément, etc., pour avoir une domination d'une autre population. ceux qui ont répondu le plus favorablement à cette théorie, ce sont par exemple les électeurs du Rassemblement National. Est-ce que cette menace de l'immigration pour une éventuelle domination, est-ce que c'est un... Vous voyez, il y a tout ça. Alors, on est dans une communauté politique, dans une certaine perception politique, à l'extrême droite. Mais voilà, alors ça dépend ce qu'on donne comme définition au danger.
Sur cette
tout
question,
simplement.
Bah juste sur cette question du danger, je vais faire une autre citation cette fois. C'est d'un philosophe qui s'appelle Frédéric Worms, qu'on connaît bien sûr cette antenne France Culture, elle est souvent à l'antenne, qui dit ceci: de tous les dangers de l'époque, les injustices sociales, les catastrophes environnementales, le plus inquiétant est sans doute les théories du complot elles-mêmes, parce qu'elles démultiplient et aggrave tous les autres dangers. C'est-à-dire que croire à certaines théories du complot, je pense par exemple sur la question du climat, c'est-à-dire penser que c'est quelque chose là aussi qui est totalement manipulé, ça encourage à ne pas suivre peut-être les bons comportements pour essayer de réduire le réchauffement climatique. Est-ce que le principal danger, il n'est pas là? C'est-à-dire que en étant aveuglé par ces théories du complot, on renforce encore un certain nombre de dangers auxquels la société est confrontée aujourd'hui, Valérie Gounet.
Mais totalement, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a ce que vous évoquez, par exemple, pour des choses très concrètes par rapport au climat, mais moi je reviens sur l'idéologie, sur la prégnance de l'idéologie, évidemment, dans cette théorie du complot. Pour moi, aujourd'hui, dans ce contexte précis, et je vous le redis par rapport à ce qu'on sait depuis quelques heures, quelques jours, à ce qu'on voit, à ces graffitis, à tout ce qui se passe par rapport, là, je cible évidemment l'antisémitisme. Pour moi, il y a un réel danger à ce que de plus en plus de Français, bon, un Français sur cinq, plus de 20% de la population, pense qu'il existe un complot sioniste. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que, regardez ce qu'on entend, cette collusion entre Rothschild des Macron, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a... Vous voyez, on est dans un terreau idéologique qui est très compliqué, dangereux, je ne sais pas, mais en tout cas, dont il faut être très, très attentif par rapport à ça. Quoi.
Est-ce que ça veut dire, Laurent Cordonnier et Julien Giry, que c'est sur le terrain de l'idéologie qu'il faut aller pour... Si ce n'est combattre, je ne sais pas si le terme de combat c'est quelque chose justement qui vous semble pertinent comme terme, mais en tout cas pour se confronter à ces théories du complot. Julien Giry.
Ah non, mais tout à fait. Je crois qu'effectivement, expliquer que les théories du complot sont d'abord des représentations du monde et qu'il faut les déconstruire en montrant ce qu'elles meuvent, etc., les dangers potentiels qu'elles peuvent avoir, dans leur expression politique incarnée et maximale, c'est tout à fait évident, c'est tout à fait nécessaire.
Mais pour revenir... Sauf que si vous me dites ça, moi je vais vous dire, si je suis un partisan de certaines théories du complot, oui. Ça, je vais vous dire que vous m'apportez la démonstration qu'il y a bien un complot puisque vous essayez
Absolument.
De me convaincre du contraire. Non.
Absolument, vous avez parfaitement raison. Vous savez bien que nous sommes tous autour de cette table des agents au service du complot sur une radio qui elle-même sert l'État, donc le complot, etc. Donc tout à fait, c'est pour ça que finalement, essayer de débunker les théories du complot ou de convaincre un complotiste qu'il a tort, c'est extrêmement difficile, c'est une tâche extrêmement ardue. En revanche, je vais pas inventer la lune ni la découvrir ici, de dire qu'il faut essayer de faire de la prévention, une meilleure éducation à l'image, à la critique réelle, parce que le complotisme n'est pas une forme critique, contrairement à ce qu'il prétend, c'est une forme pseudo-critique qui est dans l'hypercritique de façade, on doute de tout, mais dans le même temps, on ne doute de rien puisqu'on croit à une seule chose qui est irréfragable, inquestionnable, c'est l'hypothèse qu'il existe le complot. D'où le fait de déboucher, sur cette pseudo-critique victimaire, tout ce qui m'arrive est mauvais et c'est la faute des juifs, des francs-maçons, des illuminati, etc. Donc pseudo-critique victimaire et en même temps accusatoire. Ça, il faut vraiment donner les outils aux gens, aux citoyens, aux individus, aux enfants, aux ados, etc., notamment aux ados, pour pouvoir être armés intellectuellement pour résister à cette forme de pseudo-critique qui est souvent très attrayante parce qu'elle permet elle est fantasmatique, elle montre du cachet, elle est souvent présentée de façon très esthétique sur Internet, dans des vidéos, etc.
Si il y a certains biais cognitifs, Laurent Cordonnier, qui favorisent la diffusion chez certains des théories conspirationnistes, est-ce que ça ne rend pas totalement vain l'idée d'essayer de convaincre ces personnes qu'elles ont tort?
Non, en effet, ce n'est pas vain de le faire. Le fait que certains biais cognitifs facilitent l'adhésion aux théories du complot, c'est un fait, ça a été mesuré. Par contre, il y a des moyens de lutter contre ça. Alors, une des stratégies pour le faire, c'est simplement, c'est tout un programme, mais ça serait d'intégrer à l'éducation en fait scolaire des cours ou des modules de cours sur le fonctionnement de notre esprit. Si nous faisons piéger parfois par le fonctionnement naturel de notre esprit. Rien ne sert de lutter contre le fonctionnement de notre esprit, mais par contre, on peut essayer de faire avec. Et pour faire avec, il faut le comprendre. Il faudrait être sensible, être sensibilisé au fonctionnement de notre cerveau, aux biais qui nous font appréhender le monde sous un certain angle trompeur. Et dès lors que l'on devient conscient de ces biais, peut-être qu'on y succombe moins, simplement.
Oui, mais alors là, je vais enfiler mon costume de sociologue bourdieusien, que je ne suis pas, mais qui n'est pas forcément exactement celui, le vôtre, qui vous intéressait aux sciences cognitives. Mais pour ça, c'est un autre débat qu'on a déjà vu d'ailleurs dans cette émission. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord s'intéresser aux causes sociales, c'est-à-dire aux raisons qui font que certaines catégories, malgré tout, sociales, vont être davantage peut-être sensibles à ces théories parce qu'elles y trouvent une des explications à leur situation de déclassement, d'exclusion.
Tout à fait, tout à fait. Je pense que les deux doivent aller de pair. Il est vraiment important de rétablir la confiance de la population à l'égard des scientifiques, à l'égard des chercheurs, à l'égard de leurs médias et aussi, espérons-le, à l'égard des politiques. Et les politiques, les médias, les experts ne sont pas forcément innocents dans ce qui leur arrive, dans la crise de confiance qui les touche. Je pense qu'il y a des problèmes de communication parfois, il y a des problèmes de présentation de certains événements qui ont mal été faits, etc. Donc je pense qu'il faut travailler à reconstruire une confiance à l'égard des élites, montrer que dans nos pays tout ne va pas si mal, que les démocraties restent fortes, restent solides, que d'une certaine façon, la situation, les inégalités sociales se creusent et qu'il faut lutter contre ce phénomène-là. Je pense que c'est réellement la question du lien social qu'il s'agit de retravailler en profondeur.
Valérie Gounet.
Oui, moi je voudrais aussi dire que prévenir le complotisme, c'est aussi s'attaquer en amont. C'est-à-dire qu'avant qu'on devienne complotiste, donner des bonnes bases, hein, tout simplement. C'est-à-dire, c'est quoi une bonne information? Où trouver une bonne information? Comment critiquer l'information? Qu'est-ce que c'est? Apprendre l'histoire, voyez, avoir d'autres. Donc moi, je crois qu'on peut aussi penser à ça. C'est-à-dire tout ce qui a été dit, mais aussi s'attaquer en amont aux causes du complotisme et voir ces enfants qui sont à l'école, ces collégiens qui sont, etc., etc. Il y a des questions qui sont foisonnantes. C'est passionnant, hein. Parce que quand quelqu'un dit, par exemple, que, j'en sais rien, que les attentats de septembre 2001 n'ont jamais existé, quand on lui demande, comment tu sais ça? C'est Internet, monsieur. Mais où c'est mon père, monsieur? Vous voyez? Et c'est toute une éducation aux médias, à la source, qui est aussi très très intéressante, je pense.
Bah justement, tiens, à propos des attentats de septembre 2001, il y a une organisation qui s'appelle Reopen 9/11, qui en général est assez active. Peut-être que d'ailleurs je vais recevoir un mail ce soir, c'est assez probable d'ailleurs. On me dira, pourquoi une fois de plus vous parlez de ces questions-là et vous ne nous invitez pas? Comment résoudre cette question par Julien Giry, c'est-à-dire comment on discute et comment on intègre dans la discussion des gens qui croient à ces théories du complot?
Alors ça, c'est tout à fait la question difficile, parce que, comme on dit, pour être en désaccord, il faut qu'on soit au moins d'accord sur les termes du désaccord. Et c'est là quelque part que le bât blesse. C'est-à-dire que effectivement, moi j'ai rencontré beaucoup de gens de diverses associations autour du 11 septembre, alors qu'ils sont largement en perte de vitesse. Vous n'allez peut-être pas recevoir de mail ce soir.
Vous n'êtes pas obligé de nous écrire, hein, si vous nous écoutez, que vous faites partie de cette association, voilà. Hein, mais bon, bref, faites ce que vous voulez. Je vous laisse poursuivre.
Non, merci. Non, très sérieusement, en fait, vous avez différents stades, en fait. Vous avez véritablement des gens pour qui ça va être des interrogations saines et franches, parce qu'ils ont cru de bonne foi qu'il y avait des choses à creuser, des choses à voir. D'autres individus, eux, ont un programme politique, ont un véritable enjeu politique, ils vont revenir derrière. Donc encore une fois, est-ce qu'on peut intégrer certains de ces individus au débat? Oui. À partir du moment où on prend, au sérieux leurs interrogations. Certaines interrogations peuvent être légitimes au départ. Vous parliez tout à l'heure des vaccins, je fais le parallèle. Vous avez des gens qui, de bonne foi, se posent des questions sur la nocivité des vaccins. Si on les renvoie tout de suite avec l'anathème complotiste, idiot, crédule, imbécile, etc., comme c'est parfois fait dans la presse ou dans certaines études qui mettent un peu tout sur le même plan, eh bien, on participe quelque part d'une certaine forme de leur propre radicalisation, je crois.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Valérie Gounet, Laurent Cordonnier, Julien Giry, je vous renvoie évidemment donc à cette étude, la Fondation Jean Jaurès et de Conspiracy Watch, qu'on peut trouver très facilement sur Internet. Et puis les références bibliographiques des uns et des autres, c'est sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Mission que vous pouvez réécouter, que vous pouvez télécharger, vous pouvez également, donc vous l'avez compris, nous écrire. Merci à l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster, Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyré Legras, avec à la prise de son Louis Bardinet. Merci également aux équipes de la RTS à Lausanne ce soir en Suisse et aux équipes de Radio France à Bruxelles en Belgique. Dans un instant, ce sera votre tour, Arnaud Laporte, pour la dispute.
Vous me pointez du doigt d'une façon
si véhémente. Oui, avec mon stylo en plus.
Ça peut être dangereux, non ?
Oh, je peux juste vous mettre un peu d'encre sur
cette
la
journée joue. Doit être celle de la douceur et de l'amour, et les 364 qui suivent aussi. Hervé, on va parler en effet de littérature ce soir, et vous, de quoi parlerez-vous demain dans le Club des Idées ?
Ah bon, on sera très loin de l'amour demain. Antisémitisme, antiparlementarisme, comme un air de fascisme, ce sera la question qu'on posera notre club demain.
C'est l'inverse de l'amour.
Ah oui, complètement.
Finalement, il y a une tendance. 19h, vous écoutez France Culture, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.